c'était comment ça s'appelle, voilà. C'est Tite, nous avons fini avec Tite. Maintenant, c'est l'épître à Philémon. C'est une parole à part. Une parole à part. Même j'étais très étonné, je voulais voir ce que signifiait le mot Philémon. Et puis j'ai voulu regarder dans la concordance, voir s'ils avaient mis. Je n'ai même pas trouvé le nom de Philémon dans la concordance. Cherchez dans votre concordance, vous me direz. Il n'est même pas dans la concordance. Il n'y a rien là-dedans. Mais oui, il y a 25 versets. On n'a pas voulu en parler. Pourquoi? C'est une lettre personnelle. Ouais, une réflexion que j'ai lue. Puisqu'on a quand même pu avoir certains renseignements. Quand même, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est drôle. Finalement. J'ai dit, c'est moi qui vois mal. J'ai appelé ma femme pour voir si elle trouvait. Elle n'a pas trouvé non plus. Non, elle a regardé dans l'ordinateur. Ils ont quand même donné les choses, mais sur des commentaires, il y avait été fait. Mais je n'ai pas vu le nom, la signification du mot Philémon. Mais Phil, ça veut dire ami. Donc Philémon, il est ami. Ami de qui? Il est ami de nous tous. Amen. Philémon. Donc, alors il disait que c'est une lettre personnelle de Paul. Mais alors pourquoi est-ce que Dieu l'a mise ici? Donc il a des choses à dire. C'est pour ça que nous allons lire ces passages-là, comme Philémon, il a parlé. Il dit des grandes choses, je veux dire, il dit des choses importantes quand même. Des choses que le chrétien doit pouvoir mettre en pratique. La façon dont Paul il a parlé à Philémon, c'est un très bon enseignement pour le comportement des croyants. Ou bien, mais certainement, c'est pour notre édification, c'était pour que Philémon ait la bonne réaction qu'il devait avoir. Hein? D'accord? Alors on va dire, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Donc, c'était bien la conscience de Paul. Il était un prisonnier de Jésus-Christ. Ça veut dire que il était pleinement entre ses mains. Parce que c'est cela, un prisonnier, eh bien, celui qui est prisonnier, celui qui l'emprisonne, il a même le droit de mort. Il a le droit de le mettre à mort, son prisonnier. Il est prisonnier de Jésus-Christ. Donc, il était bien conscient que c'était sa position en tant que disciple de Jésus-Christ et serviteur de Jésus-Christ. Et ça doit être aussi notre position à nous, l'épouse. Disons que l'épouse, le Seigneur Jésus, là, il l'a poursuivie pour la trouver. Il nous a poursuivis pour nous amener à entrer dans la troupe de ceux qui acceptent son offre. Offre de mariage. Parce que l'offre que le Seigneur Jésus vient nous présenter, c'est de devenir son épouse. Mais pas une épouse à la manière du monde, mais une épouse selon la pensée de Dieu qui est vraiment soumise, qui a vraiment son époux qu'elle considère comme son chef. C'est-à-dire que Jésus doit être considéré comme l'époux. Il est en même temps notre Père céleste, c'est vrai, mais il a voulu être l'époux. Il a voulu être notre époux et manifester son règne avec son épouse. Pourquoi est-ce qu'il veut une épouse? Eh bien, parce que Et il ne veut pas être tout seul sur son trône. Il veut avoir une compagne, il veut avoir quelqu'un avec lui sur son trône pour gouverner dans les siècles à venir, dans l'éternité. Il veut pas être tout seul. Donc, il s'agit d'accepter qu'on est des esclaves. On est prisonnier de Jésus-Christ. Et il a avec lui Timothée, il parle à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. C'était un ancien, en quelque sorte, à Colosse. Il était à Colosse, d'après ce qu'ils ont dit. Et ce Philémon était à Colosse, il avait une responsabilité. Il apportait aussi la parole de Dieu. Il était un ancien. Et il lui écrit à une certaine occasion, à la sœur Appia, c'est son épouse, à Archippe, paraît-il que c'est son fils, notre compagnon de combat. Donc les trois, que ce soit le mari, Philémon ou l'épouse, Appia ou Archippe, le fils, ils étaient aussi, les trois étaient compagnons de combat. Et à l'église qui est dans ta maison. Donc, dans sa maison, il avait quand même une maison assez conséquente pour recevoir les frères et sœurs pour leur édification. Et cette église, elle était dans sa maison. Et c'est à eux donc qu'il s'adresse, mais surtout donc à Philémon. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix. La grâce, c'est la nature de Dieu. Dieu est plein de grâce, de bonté. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de lumière, Dieu est un Dieu de vie. Il n'est pas... Remarquez, c'est bien clair. C'est quand même Dieu ne veut pas la mort du pécheur. C'est écrit, il veut sa repentance. Il ne veut pas absolument le frapper, mais il veut sa repentance afin qu'il ne périsse pas. Ça, c'est la grâce de Dieu. Normalement, celui qui a péché, il doit mourir. Mais en Jésus-Christ, Dieu a manifesté la grâce. Puisqu'il y avait quelqu'un qui est mort pour celui qui devait mourir. Si Dieu n'était pas venu en Jésus-Christ, il fallait que tous les pécheurs meurent quant à la vie éternelle. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il voudrait qu'il puisse seulement se repentir. Et pour se repentir, c'est vrai, il faut qu'on lui dise qu'on puisse le convaincre, qu'on puisse lui montrer quelle est l'erreur. Et il faut qu'il accepte d'être enseigné. C'est pour ça que tous n'acceptent pas, quand ils sont repris par la parole de Dieu, n'acceptent pas. Donc, mais ceux qui ont reçu la grâce, alors, ils ont le secours. Ils ont le secours, l'Esprit de Dieu, qui les convainc de péché, de justice, de jugement. C'est-à-dire qu'il leur fait accepter qu'ils méritent la paix, qu'ils méritent la mort, mais que Jésus est mort pour eux, et que la justice de Dieu a été accomplie, et qu'ils n'ont plus besoin de mourir, et qu'ils peuvent revenir, qu'ils ne sont plus esclaves du péché, de l'incrédulité, puisque le péché, c'est l'incrédulité. Non, ils ne sont plus esclaves, ils peuvent recevoir de nouvelles forces, être fortifié dans la foi pour faire la volonté de Dieu, recevoir l'Esprit de Dieu. Donc ça, c'est la grâce. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à notre Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Il y a grâce et grâce. Il semble que c'est la même chose. Il y a la grâce. Il a parlé de la grâce. Il a dit que la grâce et la paix vous soient. La grâce. que maintenant, Dieu, je rends grâce. Parce que c'est dans le même, c'est la même nature. La grâce de Dieu, c'est une œuvre bonne que Dieu a faite. Et pour laquelle on peut remercier Dieu. On ne peut que remercier Dieu. Rendre grâce, c'est remercier. C'est parce qu'on on croit dans l'intervention de Dieu pour notre salut, pour notre délivrance, pour être secouru. On croit que le Seigneur va nous secourir, on croit qu'il nous a secourus. On croit la parole quand il la met devant nous, on croit cette parole et cette parole fortifie notre foi, nous donne encore plus d'assurance. Donc, il rend grâce et nous pouvons rendre grâce, c'est-à-dire remercier Dieu de tout notre cœur à cause de cette bonté de Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui veut que nous puissions nous repentir, que nous puissions changer notre point de vue parce qu'on a agi, parce qu'on pensait que c'était bien. On pensait que c'était comme ça qu'on arriverait au succès ou je sais pas. Mais il faut apprendre justement à changer et à écouter ce que Dieu dit. Donc que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Donc il parle, c'est Paul qui parle de Philémon, il dit « Je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ. » Parce que c'est cela qui est important. Il faut avoir foi en Dieu, mais si on n'a pas, bon, on a foi en Dieu, on a foi dans sa toute-puissance, on a peut-être foi dans ses paroles, mais il y a une parole qui s'est accomplie, la postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. Et la foi en Jésus-Christ, c'est la foi que Satan a été vaincu. Il avait la foi dans la victoire qui a été accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, nous devons avoir cette foi-là dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il est la femme, de la postérité de la femme qui a écrasé. Il est, autrefois, c'était annoncé comme quelque chose à venir. On aurait pu parler de la postérité qui écrasera. Mais maintenant, c'est plus possible. C'est fait! La tête du serpent est écrasée. Notre foi doit saisir le temps, c'est que c'est fait. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, ça veut dire, c'est aujourd'hui que je suis appelé à croire que c'est fait. Et puis demain, c'est un nouveau jour, et bien demain je vais aussi croire que c'est fait. Amen. C'est-à-dire, nous marchons par la foi. Ça veut dire qu'il y a un jour, et puis un autre, et un autre, et un autre. Chaque fois, il faut recommencer la journée dans la foi. Dans la foi en l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, il avait ce témoignage, l'apôtre Paul, il dit que, comme il parle, je suis informé de la foi que tu as, au Seigneur Jésus, et de ton amour pour tous les saints. C'était la preuve que s'il avait l'amour, s'il pouvait avoir l'amour pour tous les saints, c'est qu'il avait une vraie communion avec le Seigneur. Il avait une vraie communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il avait communion avec tous ceux qui croyaient dans le Seigneur Jésus-Christ, pour tous les saints, l'amour que tu as pour tous les saints. Amen. Donc il avait un bon témoignage. Il avait le vrai témoignage, il avait le témoignage du temps présent, le temps dans lequel il vivait. Il croyait dans le salut qu'il avait reçu. Et c'est ce que nous devons avoir, nous aussi. Alors il dit, je lui demande donc à Dieu que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Ta participation à la foi. C'est-à-dire les œuvres que tu fais dans la foi. Les actions que tu accomplis dans la foi. C'est ta participation à la foi. Je prie pour que cette participation, cette démonstration de ta foi que tu as, qu'elle soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. En faisant reconnaître en nous, nous qui croyons, puisque tu as l'amour pour tous les frères, tu as la volonté que tous les membres du corps ils soient pleins de bonnes œuvres. Tout le bien, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Toute espèce de bien. On pourrait dire toute espèce de bonnes œuvres. Toute espèce de bien, oui, qu'il puisse voir, même si on nous a dit, on peut vous dire, je ris encore, j'ai appris aujourd'hui que moi, j'avais même pas été converti. Qu'on dit ça. Ha! Je suis pas converti, pareil. Et les œuvres, mes œuvres, doivent démontrer si je suis converti ou pas. Hein? Bon, s'il y en a qui disent, qu'est-ce que j'ai à répliquer? J'ai qu'à vivre conformément à la foi. Et si je suis converti, je suis converti à Jésus-Christ. Et alors, j'ai fait quelles œuvres? J'ai fait les œuvres que Jésus-Christ veut faire. Amen. Donc, mes œuvres rendent témoignage pour la gloire de notre Seigneur. Je redis une fois le verset 6. Je lui demande que tu participes, que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Parce qu'il a une cause. Hein? La cause de Christ. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance du salut. Dieu voudrait. Et Jésus, il a combattu et il a donné sa vie pour que la cause, la volonté de Dieu soit accomplie, pour que le pécheur soit réconcilié avec Dieu. Le pécheur repentant, c'est-à-dire l'homme qui accepte le chemin que Dieu a ouvert. Parce que Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Un point, c'est tout. Ça, c'est la cause de Christ. Dieu voudrait. Mais si je ne veux pas accepter Jésus-Christ, j'entre pas dans les desseins de Dieu. Puisque c'est en Jésus-Christ que le dessein est accompli. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est Jésus-Christ qui a écrasé la tête du serpent. Si je n'accepte pas Jésus-Christ, le serpent a toujours la tête bien ouverte, bien levée pour mordre. Il est toujours à dominer là. Mais si sa tête est écrasée, elle se trouve où? Par terre, dans la poussière. Sous les pieds de Jésus-Christ, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. C'est une parole aussi de l'Écriture qui s'accomplit seulement dans la présence de Jésus-Christ. Donc je lui demande à Dieu que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous tous, moi y compris Paul, en faisant reconnaître en nous tous, en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Donc il a eu des nouvelles et il a été réjoui et il a été consolé au sujet de l'amour que Philémon avait et qu'il manifestait par toi, frère, donc Philémon, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est-à-dire le cœur des frères. Maintenant, il va lui proposer une chose. Hein. Vous connaissez l'histoire de Philémon quand même. Et il va lui demander pour son esclave qu'il avait peut-être volé, qu'il lui avait fait du mal, qu'il s'était sauvé. Et puis que Paul a eu le bonheur d'amener à Christ alors qu'il était en prison à Rome. Et puis maintenant, il le renvoie à son maître pour qu'il puisse demander pardon, qu'il puisse réparer les dégâts qu'il a fait, on ne sait pas. Mais en même temps, on va voir que Paul aurait bien voulu avoir les services de ce serviteur. Mais il veut pas obliger le fait, pas mettre Philémon devant les faits accomplis. Il veut d'abord ramener ce serviteur, alors il va lui demander de lui pardonner, c'est ça? Mais il sait qu'il a déjà manifesté de la beauté, il a manifesté de l'amour par rapport aux frères, donc il dit, c'est pour ça qu'il dit, j'ai éprouvé beaucoup de joie et de consolation en entendant ce que tu as fait pour les uns et les autres. Alors, maintenant, il dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul en vieillard, et de plus maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Je vais te faire une prière. J'aurai le droit, il dit, bien que j'en ai, en Christ j'ai toute liberté, parce que c'était lui qui avait aussi conduit Philémon à la foi, qui avait secouru toute la famille et tout ça. Il aurait pu lui demander, exiger de lui. Non, il n'a pas voulu, il a manifesté la nature de Paul, manifeste. C'était vraiment pas un tyran. Il savait très bien que les autres lui redevaient beaucoup, mais il ne les obligeait pas. Hein? Il ne les obligeait pas à lui rendre, à lui donner. C'est pour ça qu'il fait une demande. Et puis encore en plus, en tant que vieillard, il était peut-être encore jeune, hein? Mais les gens, en ce temps-là, ne devenaient pas aussi âgés que maintenant. Maintenant, les gens viennent beaucoup plus âgés. Mais autrefois, à 60 ans, c'était déjà des gens. Hein? C'est vrai, il faut dire que nous, hein, on bénéficie, on a les transports motorisés, on a des avantages. C'est vrai, beaucoup d'avantages. Quand j'étais jeune, on arrosait avec des arrosoirs. On portait deux arrosoirs de 12 litres de chaque côté. Et on allait arroser. Comme ça. Après, on a des tuyaux qui vous suivent. Vous n'avez plus rien à porter du tout. Vous n'avez qu'à tirer le tuyau, faire attention qu'il ne démolisse pas tout. C'est tout. Vous allez. Vous croyez que c'est quoi, ça? Ça se marque. Je veux dire, porter ces 12, ça fait 24 kilos quand même. Aller là, comme d'avoir revenir, etc. Maintenant, un tuyau, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est qu'un tuyau? L'eau vous suit. Elle vous précède. Et on a toutes sortes de moyens. C'est des choses comme ça. Donc, il semble que l'homme en profite pour devenir plus âgé. Bien que c'est Dieu qui donne des années. Amen. C'est pas toujours, oui, ceux qui ont les plus, c'est pas toujours ceux qui ont des grandes facilités qui vont venir vieux. Ça veut rien dire. Mais, enfin, c'est pour dire quand même. Donc, c'est au nom de, verset 9, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, au nom de l'amour que tu as déjà manifesté envers d'autres et que je m'avais te demandé d'une façon toute particulière, ce que je vais te demander, écoute-moi bien, il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, ça c'est le verset 10, que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi, et à moi. Parce que le mot Onésime, je crois, ça veut dire utile. C'est marqué ici. Onésime qui signifie utile, oui. Mais il a été inutile. Pourquoi? Parce qu'il s'est enfui. Au lieu d'exercer le service dans ta maison, il s'est enfui. Eh bien, c'est pour lui, donc, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même, dans ce sens spirituel, que maintenant il est devenu son frère par la foi en Jésus-Christ. Il est une partie de lui-même parce qu'ils font partie du même corps. Il est un membre du corps de Jésus-Christ. Ce Onésime est devenu aussi un membre du corps et comme chaque membre est utile à l'autre membre, aux autres membres, Paul est bien conscient que lui-même bénéficie de la présence de Onésime, que s'il était autrefois inutile pour son maître, mais maintenant, étant venu à la foi, eh bien, il est dans le service du maître, et lui-même, il en bénéficie de ce secours. Et puis, d'autre part, pour l'aider matériellement, je veux dire physiquement, puisque il montre, l'apôtre Paul montre qu'il est âgé et qu'il prend conscience qu'il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Est-ce qu'il avait un jeune homme avec lui? Ça lui aiderait beaucoup. Voilà. Alors il dit, c'est au nom de cet amour que tu as manifesté que je te demande. Donc je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place. Pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Voilà la manière de faire d'un vrai croyant. Il avait des droits, mais il n'a pas usé de ses droits pour dire. Ne pas le renvoyer, puis en somme mettre Philémon devant les faits accomplis. Je l'ai gardé, puisque monsieur, il est plus utile pour moi que pour toi. Non, il le renvoie. Et puis si Philémon est d'accord, certainement que Philémon, je ne sais pas la suite de l'histoire, mais certainement que Philémon a bien été d'accord de renvoyer Onésime. Pour le temps dans lequel l'apôtre Paul a dû rester encore à Rome. Donc j'aurais désiré de retenir, toutefois je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Ça, c'est sûr. C'est la manière de faire de Dieu. Dieu savait comment il allait conduire cet esclave rebelle, celui qui avait fait du tort à son maître, et Dieu l'a rattrapé là-bas, à Rome. Il pensait qu'à Rome, il était noyé parmi la foule, mais Dieu l'a trouvé là. Et voilà qu'il le renvoie chez son maître. Non plus, donc, bien, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Donc, l'apôtre Paul, il savait employer les mots pour demander un service. C'était pour lui un service, mais qu'il ne voulait pas obliger Philémon à le faire. Et lui, il avait besoin de ce service, de ce comment ça s'appelle? Ouais. Philémon. Non, ça c'est Onésime. Il avait besoin des services de Onésime. Alors, verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et si tu as fait quelque tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. C'est-à-dire, moi je payerai, mets-le sur mon compte, oublie ce qu'il te doit, change-le de compte. Que ce soit sur mon compte, pas sur son compte. Moi Paul, je t'écris de ma propre main, je payerai, pour ne pas bien dire que tu te dois toi-même à moi. Vraiment, il savait dire les choses. C'est vrai, mais il était inspiré par Dieu. Il était inspiré pour que, c'est vraiment que ce Philémon puisse faire de tout son cœur, qu'il puisse pardonner, qu'il puisse recevoir celui qui l'avait trompé, qu'il puisse vraiment lui pardonner. Mais il fallait qu'il règle, il fallait qu'il vienne là, il fallait qu'il le reconnaisse. Et puis que, certainement, il devait de l'argent, mais il n'avait pas d'argent. Mais puisque Paul avait dit, c'est, moi je payerai, alors c'était réglé. Les choses étaient réglées. Donc, quand il est retourné, quand il était renvoyé, eh bien, certainement, il avait la conscience tranquille. C'est la manière de faire que Dieu a employée pour user de grâce et pour manifester sa bonté envers chacun. Oui, frère, verset 20. Que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. En somme, il insiste encore. Hein? Il insiste. Que j'obtienne de toi cet avantage. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris. Obéissance par rapport au pardon. Là, il n'a pas ordonné qu'il lui renvoie absolument. Et il lui a expliqué que ça lui ferait du bien d'avoir ce jeune homme. Mais son obéissance pour pardonner dans la pratique. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Même donc, il prévoit Même s'il le renvoie pour un peu de temps, c'est sûr, mais il prévoit qu'il va pouvoir être libéré et revenir chez ce Philémon à Colosse. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Voilà. Donc, ce sont ça, les paroles de Philémon. On voit, au travers de cet épître-là, on voit comment un serviteur de Dieu, eh bien, bien qu'il ait eu de l'autorité de la part de Dieu, bien qu'il était reconnu comme vraiment l'apôtre que Dieu avait envoyé, comme l'homme qui leur avait apporté la parole, le message. Malgré cela, il ne cherchait pas à s'imposer, à dominer, mais c'est comme notre Seigneur Jésus-Christ, il était Dieu. Il pouvait s'imposer, mais il n'a pas cherché à s'imposer. Il a cherché à disposer les cœurs des croyants à venir. Il a essayé de disposer les cœurs à se donner, à répondre à cet amour que le Seigneur avait besoin d'eux. C'est vrai, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui soient des témoins là où ils vivent. Le Seigneur a vraiment besoin de nous de toute manière. Il aurait le droit de nous. Si nous croyons, nous reconnaissons que sans lui, nous étions perdus. Et que si nous vivons, c'est la grâce de Dieu, on ne vit plus pour soi-même. Si on a vraiment compris l'œuvre qu'il a accomplie, eh bien, on se considère comme étant à sa disposition. Donc on doit prendre cette position-là, il aurait le droit d'exiger, mais là encore, le Seigneur nous demande, comme si c'est une grâce qu'on lui accorde. Mais c'est pas nous qu'on lui accorde une grâce, il mérite d'être servi. Hein? Amen. Il mérite qu'on se donne à lui totalement, c'est tout. C'est juste. Hein? D'accord? Vous êtes d'accord? Mais il est d'accord. C'est important. Mais cependant, eh bien, il nous parle avec sagesse, on pourrait presque dire avec ruse, hein, comme il dit. Comment on voit l'apôtre Paul, comment il parle. Mais c'était pour qu'il puisse s'engager vraiment, qu'il comprenne que c'est une question d'amour. Question d'amour. Je sais que tu as déjà manifesté de l'amour, eh bien, je te demande quelque chose de plus, parce que c'est plus difficile de pardonner à un homme qui vous a trompé, qui vous a volé, on ne sait pas trop ce qu'il avait fait, hein, qui vous a fait tort, et puis maintenant le recevoir comme si c'est votre ami. Et c'est ce que Paul dit, moi, reçois-le comme moi-même. Comme si c'est ton ami. Puis si tu veux me le renvoyer, ça me fera beaucoup de plaisir. Hein? J'en aurais besoin. Alors, regarde, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est ainsi que le Seigneur il nous parle. Nous allons nous lever.